Nous allons aujourd'hui commencer un thème qui va nous préparer à revenir au message que nous avons eu il y a plusieurs semaines ou de nombreuses semaines d'ici, à savoir les armes principales que le Seigneur a mises à notre disposition, des armes qui nous assurent une victoire totale et entière face à nos ennemis, quelle que soit leur nature. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la nécessité d'entrer dans sa destinée, et cela dans le but de régner. Oh, alléluia. Car le Seigneur nous appelle à une vie extraordinaire. Peu importe le contexte, peu importe, mes amis, les choses qu'il y a devant nous, autour de nous, peu importe l'adversaire qui se dresse devant nous, peu importe le milieu dans lequel nous évoluons, eh bien la vie du Christ est une vie de victoire, une vie de plein épanouissement, bref, une vie qui est appelée à se manifester par un règne puissant. Gloire à Dieu. Entrer dans sa destinée, afin donc de régner. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le dernier verset du chapitre 9 de 1 Samuel, verset 27, et puis ensuite nous poursuivrons notre lecture au chapitre 10, les 10 premiers versets. Verset 27 du chapitre 9 de 1 Samuel, nous lisons « Quand ils furent descendus de la ville, Samuel, donc le prophète, dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. »« Arrête-toi maintenant, je te ferai entendre la parole de Dieu. » Chapitre 10, à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage ou de son patrimoine, pour que tu sois le naguide, le chef, le conducteur d'Israël. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin à Tseltsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront deux pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibeah Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Il y a en cet endroit plusieurs variantes. Parce que, bon, ce terme-là, vous savez, quelquefois on a difficile à traduire des mots bibliques, que ce soit des mots d'origine araméenne ou hébraïque. Donc, si vous avez une version où il est question plutôt de gouverneur à la place de garnison, sachez que c'est une variante. Et c'est toute la difficulté que les traducteurs éprouvent par rapport à certains mots. Donc tu trouveras où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel ou du Seigneur s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, ou littéralement, Dieu lui changea le cœur. Et tous ces signes, la conséquence, le résultat extraordinaire de ces transformations du cœur de Saül, c'est que ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là à Gibéa, et voici qu'une trompe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà l'histoire qui, dans un premier temps, va nous permettre de comprendre ce que la parole de Dieu entend par destinée, mais aussi ce que cette exhortation de la part du Seigneur qui veut que nous puissions régner dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donc attirer l'attention de chacun de nous en ce dimanche 13 juin sur la nécessité de régner dans la vie, la nécessité, mes amis, de dominer sur les événements, de dominer sur les circonstances, et ce par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous devons savoir, frères et sœurs, que de par notre position en Christ, de par la présence du Seigneur en nous, eh bien, nous sommes appelés, nous sommes destinés à une vie de victoire, à une vie de plein épanouissement. Bref, nous sommes destinés à régner dans la vie. Cette aspiration à expérimenter la victoire, peu importe la nature du combat dans lequel nous sommes engagés, cette aspiration, mes amis, d'aller de gloire en gloire, de marcher sur tous les plans du diable contre notre vie, de dominer parmi nos adversaires, parmi nos ennemis, cette aspiration-là est légitime, et je vous dirais même que cette aspiration rencontre la volonté de Dieu pour chacune de notre vie. Alléluia. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous la victoire absolue. Nous ne devons pas subir la vie. Nous ne devons pas subir les événements et les circonstances qui entourent notre vie. La Bible nous dit que nous sommes appelés, nous sommes destinés, et ceci est une vocation pour tout celui, pour toute celle qui est en Jésus-Christ, à savoir régner, régner dans la vie. Gloire au Seigneur. Régner dans la vie par Jésus seul. Voyez-vous, c'est donc un appel, comme je viens de le préciser, c'est une vocation que le Seigneur nous adresse à nous qui sommes ses enfants, à nous qui l'avons rencontré un jour, à nous sur qui, mes amis, il a jeté son dévolu. En Christ, nous avons été élus. En Christ, nous avons été choisis. Oh, hallelujah. En Christ, Dieu nous a mis à part et nous a destinés à une vie extraordinaire, à une vie de plein régime, à une vie, mes amis, de victoire. Mais malheureusement, ceci n'est pas toujours le cas. Si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, si nous voulons être honnêtes, voyez-vous, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu la vie du Christ, tous ceux en qui Jésus vit, mes amis, eh bien, ont la possibilité de régner dans la vie. Ceci est une déclaration forte de la parole de Dieu. Mais malheureusement, par ignorance, ou alors par un manque de communion profonde, intime avec le Seigneur, nous passons à côté, mes amis, de toutes ces promesses, et nous nous retrouvons dans une vie où nous nous plaignons tout le temps, une vie remplie de jérémiades, comme on dit, une vie où on se plaint tout le temps, une vie où on tourne en rond, on n'arrive pas à avancer, alors que le Seigneur de gloire, alors que celui qui a triomphé à Golgotha, habite nos cœurs. La Bible est formelle, il nous destine à la victoire, et gloire à Dieu. Mais cette vie de victoire, mais cette possibilité, cette nécessité de régner dans la vie par Jésus-Christ n'est possible, mes amis, ou ne devient possible que dans la mesure où nous entrons et demeurons dans notre destinée. Gloire à Dieu. Entrer dans notre destinée, demeurer dans notre destinée. Voilà donc la condition sine qua non pour pouvoir régner dans la vie. Pour pouvoir régner expérimenter la plénitude de la vie du Christ dans tout le domaine de notre vie. Cela est possible, mes amis. Lisez les Saintes Écritures. Vous verrez comment des gens simples, des gens faibles, des gens vulnérables, des gens marqués par toutes sortes de faiblesses, sont arrivés à devenir des héros de la foi, à marquer l'histoire de l'humanité en lettres d'or. Ces gens étaient de la même nature que nous. Et ce Dieu-là est le même que nous prêchons aujourd'hui. Et ce Dieu-là est le même qui est parmi nous ce matin. Il ne change point. Il est le même de toute éternité, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. Mais avant d'aller plus loin, essayons d'abord de définir, et ce à la lumière de la parole de Dieu, ce que la Bible entend par destinée et par régner. Car il y a la définition profane, ce que les gens du monde, eh bien, nous proposent comme définition, lorsqu'il est question de parler de destinée ou de règne, mais il y a aussi, mes amis, la définition de ce concept tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la destinée? C'est un mot qui à un certain moment a été quasi récurrent dans la bouche de beaucoup de prédicateurs ici chez nous au Congo, n'est-ce pas? Connaître son destinée, marcher dans sa destinée, appelé à entrer dans sa destinée. Mais qu'est-ce que la destinée? Et qu'est-ce que la Bible entend par règne? Ce règne auquel le Seigneur nous appelle, mes amis, et qui est une aspiration qui est inscrite en nous, puisque nous avons l'ADN du Dieu vivant, à savoir le Saint-Esprit. David avant nous, héros de la foi, David, un homme qui aussi un jour est entré dans sa destinée et a vécu de choses extraordinaires, David est arrivé un jour à comprendre que tout ce qui lui est arrivé, eh bien, n'a pas été le produit du hasard. Tout ce qui lui est arrivé, tous ces événements auxquels il a été confronté, des événements bons, agréables, d'autres désagréables, des épreuves, tout cela, eh bien, n'a pas été des choses fortuites, des contingences, des imprévus, pas du tout. C'est ainsi qu'il déclare dans le psaume 31, versets 15 à 16, « Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. » Et il ajoute, « Mes destinées sont dans ta main. » Oh, alléluia. « Mes destinées sont dans ta main. Toute ma vie, tout ce qui entoure ma vie, tout ce qui concerne ma vie, mon cheminement, tout cela... eh bien, se trouve dans ta main. Et par conséquent, tout ce qui m'est arrivé, eh bien, ne m'est pas arrivé au hasard. Toutes les persécutions dont j'ai été l'objet de la part de Saül, et toute cette vie d'errance qui m'a conduit de caverne en caverne, d'épreuve en épreuve. À un certain moment, cet homme s'est même déguisé en fou. Il a fait le fou pour échapper à la main de ses adversaires, les Philistins. Tout cela, Seigneur, n'est pas arrivé au hasard. Tu tiens dans tes mains ma destinée. » La destinée. Qu'est-ce qu'on entend par destinée? Comme je vous l'ai dit souvent, il faut toujours prendre le soin de vous asseoir pour regarder autour et alentour des concepts bibliques afin de mieux le comprendre. Car sans le savoir, sans le vouloir, nous avons tendance à projeter sur les termes bibliques eh bien, ce que nous sommes, ou la compréhension que nous avons reçue de par notre parcours, de par notre arrière-plan religieux, de par notre background. La destinée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, d'après le monde, la destinée est définie comme étant une puissance, comme étant une force. Pour les uns, une force impersonnelle, une puissance impersonnelle, pour d'autres, une puissance personnelle, qui selon certaines croyances, eh bien, une force qui réglerait de manière inéluctable les déroulements des événements ici-bas, mais aussi une force, une puissance qui régit, qui soutient les lois de l'univers. Tout cela, c'est ça la destinée. Donc, une force invisible, qui peut être impersonnelle. Quand je dis impersonnelle, c'est-à-dire des forces cosmiques. Regardez tous ceux qui consultent l'astrologie, n'est-ce pas? Ils sont convaincus que le positionnement des astres les uns par rapport aux autres, le cours, la manière dont tout cela se passe dans le cosmos, eh bien, influencerait leur vie. Alors, c'est ainsi que certains ne peuvent pas commencer une journée sans avoir consulté l'horoscope. Et dans l'horoscope, on leur propose, voilà, étant donné la position de la Lune, dans ceci, dans cela, étant donné la position de telle constellation, et donc voilà, cette journée s'annonce bien pour toi, tu auras la chance, tu auras ceci. Donc, pour eux, c'est ça la destinée. C'est une force impersonnelle, voilà, qui détermine le cours des événements, et ce, de manière inéluctable. Parce que si c'est la position de la Lune qui influencerait la vie de telle ou telle autre personne, alors cela, est comme ça. Tu ne peux pas aller dire à la Lune, non, je voudrais que tu retardes un tout petit peu pour que cette journée se déroule comme j'aimerais qu'elle se déroule. Pour d'autres, c'est une force personnelle ou personnifiée, selon les croyances. Si vous visitez, je vous passe les détails, vous visitez les différentes civilisations, vous verrez que dans leurs croyances religieuses, culturelles, et souvent polythéistes, c'est-à-dire croyant dans plusieurs dieux, eh bien, derrière la pluie, il y a une force, derrière ceci, il y a une force, chez nous, l'animisme, n'en parlons pas. Donc, et tout cela, d'après le monde, eh bien, détermine ce qui se passe ici-bas, et par conséquent, détermine la destinée. Voilà. Alors, il y en a qui s'accrochent à ça. Voilà, qui s'accroche et qui trouve dans tout de la fatalité, c'est comme ça, ça a été écrit, vous avez déjà entendu cela, ça a été écrit ainsi dans les étoiles, n'est-ce pas, croisons le doigt, hein, c'est comme ça, vu la position de tel astre, vu telle ou telle autre constellation, eh bien, les choses devaient se passer comme ainsi, voilà. Mais nous ne devons pas nous limiter, mes amis, à cette définition qui nous est proposée par le champ du monde, la définition séculière. Que nous dit la parole de Dieu? En regardant à la parole de Dieu, en essayant de l'étudier à la lumière de la révélation biblique, eh bien, vous savez tous que la création, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire vous et moi, tout ce que nous voyons, mais également au-delà de ce que nous voyons, tout ce qui est invisible, tout cela, mes amis, est l'œuvre du Créateur, est l'œuvre du Dieu de la Bible. Ça, c'est important. Celui qui a créé, celui qui est à la base de toutes les lois physiques sur lesquelles repose notre univers, il est le Créateur de toutes choses, celui qui nous a fait à son image, celui qui a imprimé sa marque en nous. Nous sommes de sa race. Dira l'apôtre plus tard, la race du Dieu vivant. Il a tout créé. Non seulement il a tout créé, mes amis, mais il est aussi celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est important de le souligner. Sa parole soutient toutes les lois physiques. Et ça nous montre quand nous parlons de la parole, et nous parlons d'une réalité qui a une substance, qui a un contenu. Oh, alléluia. Et quand nous regardons à tout cela, nous voyons que cette parole qui soutient toute chose est celle qui existe de toute éternité et qui un jour est venue sur cette terre, a pris la forme humaine, à savoir Jésus de Nazareth. Il est la parole qui est au commencement de tout, la parole par laquelle tout est venu à la création, à l'existence, mais aussi, il est celui qui soutient toute chose. Donc l'univers, ce cosmos dans lequel nous nous trouvons, si vous regardez rien que notre galaxie, eh bien vous verrez que notre Terre ici ressemble à la moitié ou à rien. C'est un grain de poussière, voyez. Dans l'immensité du cosmos, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Donc cet univers est un projet intelligent et non pas le produit du hasard. Cela est important. Cela est un prérequis à la compréhension de ce que nous entendons par destinée. Car si nous croyons que tout ceci, derrière la création, il y a un projet intelligent, derrière la création, il y a notre Seigneur, alors nous pourrions comprendre ce que c'est la destinée. Alors la notion de hasard, de fatalité, de contingence, eh bien, n'aurait plus de raison d'être dans notre relation avec le Seigneur. Comme Paul le dira plus tard, tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui... Tous mes amis contribuent à la réalisation du plan de Dieu pour la vie de ses enfants. Non seulement Dieu est le créateur de toutes choses, non seulement il est celui qui soutient toutes choses, mais il est aussi, et ça c'est important, et c'est le point qui nous intéresse, du moins par rapport à notre thème, il est aussi le maître des temps et des circonstances. C'est Daniel chapitre 2 verset 21 qui nous le dit. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, celui qui change, regardez bien, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse le roi et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Tout cela, mes amis, nous montre que par-delà ce que nous voyons, par-delà les autorités de ce monde, par-delà le grand de ce monde, il y a la souveraineté du Dieu de la Bible. Il y a la souveraineté de notre Dieu. Il n'y a pas de hasard. Celui qui renverse le roi, celui qui les établit, celui qui donne la sagesse, celui qui donne l'intelligence, ce Dieu-là, un jour est venu habiter dans ton cœur. Ça veut dire que tout ce qui entoure, environne ta vie, n'est pas le produit du hasard. Tout a été prévu. Tout a été organisé, tout a été suscité pour que son plan pour ta vie puisse s'accomplir. Acclamons-le. Donc à partir de ces déclarations, nous pouvons, j'ai essayé à partir de tout cela, de formuler une définition qui tient compte des différentes déclarations de la parole de Dieu en ce qui concerne la destinée. Eh bien, nous pouvons donc, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de certaines vérités de la parole, définir la destinée comme étant l'ensemble. Et là, je vais dire tout doucement pour ceux qui prennent de notes, la destinée comme étant l'ensemble des événements et des circonstances prévus, organisés, préparés par Dieu afin que son plan, oh alléluia, et sa volonté s'accomplissent dans notre vie. Voilà. Dieu est préoccupé par une chose. Il veut que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Il nous a créés pour lui. Nous lui appartenons, oh hallelujah. Nous lui appartenons, il a tout le droit sur nous. Il veut que nous le ressemblions, c'est ça sa volonté. Il veut que nous vivions par lui. Il veut que nous demeurions dans sa parole. Bref, il veut que nous régnions. L'ensemble des événements, l'ensemble des circonstances qui ont été prévues, qui ont été préparés, qui ont été organisés par le Seigneur, afin que sa volonté et son plan pour notre vie puissent s'accomplir. Ça veut dire que tu n'es pas le produit du hasard. Ça veut dire que si tu remontes au-delà de ta naissance, il n'y a pas eu non plus de hasard. Il a fallu qu'il se passe ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es. Il a fallu que cet homme-là rencontre cette femme-là dans des situations bien particulières, dans des contextes bien particuliers, même s'il ne connaissait pas Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui croient en lui, il est le Dieu de toute l'humanité. Eh bien, même ces circonstances-là, qui peuvent vous paraître un peu bizarres ou bizarroïdes, tout cela a été prévu pour qu'un jour, toi, tu viennes au monde et qu'un jour, tu puisses le rencontrer. Gloire à Dieu. Voilà donc ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la destinée. Tout ce qui environne ta vie, tous ces événements, toutes ces circonstances, mes amis, les temps par lesquels tu passes, tout cela, eh bien, constitue ta destinée. Et quand je parle de ta destinée, c'est que c'est une voie que le Seigneur a tracée pour toi. Car quelquefois, nous voulons être comme les autres. Oui, il y a des choses que nous partageons en commun. Mes amis, oui, il y a des choses que nous avons. Mais lorsqu'il est question de la destinée, elle est particulière, elle est singulière pour chacun de nous. Oh, alléluia! Je pense à Pierre. Dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur leur apparaît, ils sont là, sur le bord, sur le rivage du lac de Galilée. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Et puis voilà, le matin, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le Seigneur ressuscité. Le Seigneur de gloire est là, sur les rivages. Il va leur demander de jeter le filet du côté de la barque, etc. Vous connaissez l'histoire. Ils vont attraper beaucoup de poissons. Finalement, ils vont se dire, mais tiens, c'est bien le Seigneur, car il n'y a que lui. Il n'y a que sa parole qui peut amener de tels résultats. Alléluia. Et puis, par après, le Seigneur va donc, il se manifeste à eux, et pendant qu'ils mangeaient, il va s'adresser à Pierre, il va lui poser trois fois cette question, « Pierre, m'aimes-tu, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes brebis, etc. » Et à la fin, au verset 18 de Jean, chapitre 21, il dit ceci à Pierre, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras, voilà le texte qui apparaît, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà, il lui demande quoi ? Pierre, ils sont à plusieurs là sur le bord. Hein. Si vous lisez le début du chapitre, Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Baba, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Donc il n'était pas seul. Mais là, il parle à Pierre. Il dit à Pierre, suis-moi. Et puis Pierre se retourne. Et quand il se retourne, qui voit-il ? Il voit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Alors, Pierre voyant Jean, écoutez, il dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Ah, voilà, tu me dis ce qui va m'arriver. Tu me demandes de te suivre. Voilà, et il se retourne, il voit Jean, et lui, « Que lui arrivera-t-il ? » Alors Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Ce n'est pas ton problème. J'ai un plan pour sa vie. Et c'est vrai que Jean vivra longtemps. Jean vivra longtemps, presque un siècle, puisque nous le retrouvons sur l'île de Patmos, presque à la fin du premier siècle. Mais Pierre, entre-temps, connaîtra le martyr et il n'ira pas beaucoup plus loin que l'an 70. Pourquoi l'an 70 ? Parce que ça reste une date charnière dans l'histoire d'Israël. C'est en l'an 70 qu'Israël va être, Jérusalem va être détruite par l'armée de Titus, etc. C'est là que la grande diaspora juive va commencer, diaspora qui s'arrêtera en 1948, presque 2000 ans plus tard. Voyez-vous, c'est ce qui arrive quand on désobéit. Donc bref, ne regarde pas
a dit. Regarde plutôt, Seigneur, et cherche à connaître le plan qu'il a pour toi. Voilà. Il a tracé un chemin pour lui. Or, aujourd'hui, nous voulons être comme telle ou telle autre personne. Voilà, Dieu a fait ceci pour telle personne. Oh Seigneur, je voudrais que tu le fasses aussi pour moi, mon frère, ma sœur. Dieu a tracé une voie pour chacun de nous. Chacun de nous a sa destinée. Contente-toi de ce que tu es maintenant. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Oh, alléluia. Oui, il y a des gens que j'ai rencontrés il y a quelques années. Je suis loin de m'imaginer qu'un jour, ils seraient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Contente-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Oh, alléluia. Alors, régnez très rapidement, parce que le temps presse. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Régner, c'est quoi? C'est exercer son pouvoir. On a son pouvoir, on l'exerce. Mais nous, quel pouvoir avons-nous? La Bible nous dit que nous sommes vendus au péché. Nous sommes esclaves du péché. Nous vivons dans un monde où les dominateurs des ténèbres exercent un joug terrible, un joug mortifère sur nous. Nous n'avons qu'un pouvoir, si ce n'est de nous faire du mal les uns aux autres, n'est-ce pas? C'est là que la nécessité de connaître Romains 5, 17, j'y reviendrai. Régner par Jésus seul. Régner, exercer son pouvoir, et nous le verrons. Régner, c'est prévaloir, c'est-à-dire prendre de l'avantage sur quelque chose ou sur quelqu'un. Régner, c'est l'emporter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voilà. C'est exercer, c'est avoir un rôle. C'est avoir une influence prépondérante, mes amis, sur quelque chose, sur une personne ou des personnes, dans sa sphère, on a une influence prépondérante qui est au-dessus de tout le monde. Alors on règne. Ainsi on va dire, tiens, lui il règne un maître. Dans le foot, il y a des joueurs qui règnent un maître, oui ou non? Ah oui. De par leur présence dans tel ou tel autre club, ces clubs écrasent et dominent leur championnat. C'est ainsi que nous pouvons parler, par exemple, de faire régner l'amour là où il y a la haine. Christ n'est-il pas amour? Donc le règne de Christ, l'expérimenter, c'est expérimenter le vrai amour. Là où il y a la haine, là où il y a l'animosité, là où il y a les hostilités, eh bien, avec le règne du Christ en nous, par nous, au travers de nous, nous pouvons porter là l'amour. Là où nous pouvons faire régner la sainteté, la pureté, là où il y a le vice, là où il y a la corruption, là où il y a l'immoralité, là où il y a la souillure, nous pouvons faire régner la justice, là où il y a les inégalités. Voyez-vous? Voilà ce que ça veut dire régner. Ce n'est pas exercer un pouvoir despotique, un pouvoir autoritariste. Ce n'est pas se comporter à Machiavel. Non! C'est régner par Jésus. Oh, alléluia. Mes amis, le règne du Christ en nous reste le seul antidote à tous ces péchés, à tous ces maux qui gangrènent notre monde. Oui, ne l'oublions jamais. La présence du Seigneur en nous, notre position en lui nous assure, nous octroie des privilèges et des avantages incommensurables. Nous sommes vraiment un peuple privilégié. Nous sommes un peuple à part. Nous devrions aller de victoire en victoire. Nous devrions exercer de l'influence dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère conjugale, mais la bonne influence, c'est ça régner par Jésus, et non pas se transformer en dictateur, en despote, pour son épouse ou pour son mari. Voilà. Alors, viens ici. Tu sais ce que tu étais avant que je t'épouse? Je t'ai ramassé dans une rue, ma femme. Non,
se régner par Christ. Et là où Christ règne, là il y a le vrai amour. Il y a la compassion, il y a la patience, il y a le pardon. Et parmi ces privilèges, fruit ou du moins conséquence de notre position en Jésus-Christ, il y a le fait de régner dans la vie par Jésus, et ce, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Régner, le règne du Christ en nous ne dépend pas de la position géographique, du contexte géographique, qu'on soit en hémisphère nord ou sous les tropiques, n'a rien à voir avec notre appartenance tribale ou ethnique, n'a rien à voir avec la couleur de la peau, n'a rien à voir, mes amis, avec comment la condition de notre cerveau, pas du tout. Régner dans la vie par Jésus, cela est possible, alléluia. Mon frère, tu peux régner, c'est ta vocation. Mon frère, tu peux exercer l'influence, la bonne influence, dans ta sphère professionnelle, là où tu travailles, parmi tes ennemis. C'est possible de régner et de dominer tes adversaires. La domination de Dieu, pas celle du diable, qui écrase, voilà, qui cherche à écarter les autres pour rester seul, pour devenir le centre de la terre. Non. La parole de Dieu déclare, et je voudrais que ce verset reste imprimé dans nos consciences. Oh, je voudrais que, quand vous fermerez les yeux, vous puissiez réciter les paroles de ce passage, Romains 5, 17, la deuxième partie de ce passage. C'est une déclaration puissante de la parole de Dieu. Voilà ce que Romains 5, verset 17b, c'est-à-dire la deuxième partie, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Oh, alléluia. À combien plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie? On ne parle pas du règne dans l'éternité. Oui, nous régnerons dans l'éternité un jour. Mais ici, il est question de régner dans... Nous sommes encore dans l'espace et dans le temps. À combien plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie? Et voilà ce qui suit. Par le seul... Gloire au Seigneur. Quelle déclaration puissante. Si nous pouvons vivre cette parole, mes amis, nous irons de gloire en gloire. Car le Seigneur déclare par cette parole, annonce littéralement que nous sommes appelés à régner dans cette vie par la puissance et l'autorité du Christ. Il y a moyen de dominer ton chef, mais de la bonne manière. Il y a moyen de régner là dans ton travail. Tu es entouré de gens corrompus. Voyez. Tu es entouré de gens immoraux. De gens qui respirent le mal. Qui transpirent l'impureté, la souillure. Malgré ce contexte difficile, ionisé par le péché, tu peux faire la différence. Tu as été créé pour faire la différence. N'es-tu pas le sel de la terre? N'es-tu pas la lumière du monde? Là où il y a les ténèbres de la corruption, les ténèbres du mensonge, là où il y a les ténèbres de l'immoralité, les ténèbres de l'adultère, les ténèbres de l'idolâtrie, là où il y a l'aveuglement, l'obscurantisme intellectuel, la Bible dit que toi tu peux faire la différence, car tu as reçu l'abondance de la grâce. Tu peux donc régner par Jésus-Christ, alors qu'ils ne t'aiment pas, alors qu'ils sont remplis de haine envers toi. Quand tu arrives,
tu rayonnes parmi eux en leur montrant l'amour du Christ. Remarquez qu'il n'est pas dit, hein, vous régnerez dans les cieux ou dans une autre vie. Vous avez lu ça? Oui, un jour viendra où nous quitterons ce corps de chair, ce vase d'argile, où nous passerons dans l'éternité et nous connaîtrons la félicité éternelle. Et nous vivrons et nous régnerons avec lui éternellement, n'est-ce pas? Ça, ce sont les grâces qui nous attendent là-haut. Ça, c'est ce que nous vivrons là-bas. Mais le Dieu qui nous attend dans l'éternité, celui qui se révèle comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, déclare que déjà ici-bas, alors que nous sommes dans ce corps marqué par toutes sortes de faiblesses, ici-bas, nous pouvons régner par lui et par lui seul. Mes amis, nous sommes appelés à régner sur notre vie et non à nous laisser dominer par elle, dominer par le mal, dominer par notre égoïsme, par notre ego hypertrophié. Voilà. Par notre ego orgueilleux, puissance 4. Vous vous rendez compte, hein? Il y a des gens, quand vous le regardez, c'est vraiment l'orgueil puissance 4. Hein? Orgueil, vous prenez orgueil fois orgueil, 4, ça. Incroyable. Il respire, il transpire, il dégage, il reflète. Bref, ils sont la substantifique moelle de l'orgueil. Oui, nous pouvons dominer. Nous ne devons pas subir la vie, avant de terminer. Nous ne devons pas subir. Il y a des gens qui subissent la vie. Hein. Et surtout, Jésus, chez nous, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes venus accompagner les autres. Hein? C'est très bien quand on le dit en lingala. Hein? Voilà. Tu es gotika? Tosalanin. Vous voyez, non, peu importe ta condition sociale, peu importe où tu vis, que tu aies un diplôme ou pas, Dieu a tracé une voie, tu as une destinée, tu dois entrer dans cette destinée. Ces événements-là, eh bien, ont été préparés par Dieu. Tu aurais aimé tant étudier, tu aurais aimé avoir un diplôme, mais les circonstances de la vie on fait que tu n'aies personne pour payer tes études. Tu es arrêté au niveau primaire, au niveau secondaire. Et quand tu vois ceux qui ont des diplômes universitaires, tu es complexé. Non, mon frère, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Car il veut te donner une sagesse qui n'a rien à voir avec celle que nous avons lorsque nous recevons des diplômes. Car pour confondre les choses fortes du monde, Dieu a choisi des choses qu'on méprise. Oh, alléluia! Oh, mes amis, les choix de Dieu sont aux antipodes de la raison humaine. Je reviendrai là-dessus. Voyez-vous, quand nous allons parler en long et en large de Saül, Dieu fait des choix bizarres. Ça, je vous l'ai dit. On aura apporté une histoire à mon épouse et à moi à propos de la réaction d'un couple pastoral en Europe après avoir appris que j'étais ici à la borne. Et voilà comment ils réagissent. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être à la borne? Est-ce que moi j'ai fait quelque chose? D'abord, je n'étais pas ici. Pendant que les uns et les autres se battaient, cherchaient à disqualifier, Joseph était loin. Je ne me suis pas battu. Ne vous battez pas. Laissez Dieu se battre pour vous. Il a tracé une voie. Ne cherche pas à trouver des boucs émissaires, à dire, Seigneur, lui me fait de l'ombre. Mais si tu es avec Dieu et que l'autre te fait de l'ombre, c'est que Dieu a permis qu'il te fasse de l'ombre. Comment peux-tu apprécier la lumière si tu n'es pas confronté à l'ombre? Il n'y a pas de hasard. Alors, pour dominer, pour ne pas subir les événements, les circonstances et les dominer, bref, pour régner dans la vie, eh bien, nous devons d'abord entrer dans notre destinée. Oui, Dieu a un plan spécifique, bien spécifique pour chacun d'entre nous. Pierre, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis de te suivre? Tu me dis, là, tu me révèles comment je terminerai mon voyage ici-bas, mais lui, et lui, il dit non, ce n'est pas ton problème. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, c'est-à-dire qu'il vive 2000, 3000 ans, en quoi ça te regarde? Toi, suis-moi. Pierre, ne te préoccupe pas du plan que j'ai pour les autres. Je sais ce que je fais. Toi, suis-moi. Tu vas terminer ainsi. J'ai décidé comme ça. Pourquoi Pierre va-t-il connaître le martyr de manière brutale? Alors que d'autres, Jean, certes, il va connaître l'exil, mais il va vivre beaucoup plus longtemps. Rappelez-vous, Dieu a un plan bien spécifique pour chacun de nous. Rappelez-vous, une vie réussie n'est pas forcément une vie marquée par la longévité. Vous pouvez vivre 100 ans et vous retrouver dans l'éternité avec le poids de péché de 100 ans. C'est beaucoup, hein? Terrible. Il y en a qui vivent 30 ans, pleinement. Ils réalisent le plan de Dieu et puis s'en vont près de lui. Ils accomplissent ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. Et puis il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à 80, 90 ans, etc. Donc, mais pour pouvoir expérimenter tout cela, il faut entrer dans sa destinée. Et l'histoire que nous avons lue de Saül est une illustration de toutes ces vérités que je viens de vous partager. Comment Saül est-il entré dans sa destinée? Comment Saül est-il a-t-il, ou du moins, comment le plan de Dieu, les desseins de Dieu, se sont-ils accomplis dans la vie de Saül? Comment est-il entré dans sa destinée? Eh bien, suite au prochain épisode. Gloire à Dieu. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Mon frère et ma sœur, tu n'es pas le produit du hasard. Tu as été créé par Dieu. Non seulement il t'a créé, mais un jour il t'a racheté en Jésus-Christ. Un jour il a permis que tu les rencontres. Et depuis ce jour-là, tu es entré dans son plan. Depuis ce jour-là, eh bien, le plan de Dieu pour ta vie s'est déclenché. Depuis ce jour-là, eh bien, il n'y a plus de hasard. Tous les événements, toutes les circonstances difficiles, pénibles, douloureuses, ces événements agréables, joviaux, qui environnent, qui ont entouré ta propre vie, ton existence, n'ont pas été le produit du hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, redis-lui merci pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Pour autant que cela ne soit pas le produit du péché. Attention. Voilà. Tu te retrouves dans une situation parce que tu as escroqué les gens. Ne dis pas c'est ma destinée. Non. Ta destinée dans ces cas c'est Makala. Voilà. Je ne parle pas des conséquences du péché. Je parle de ce qui nous arrive alors que nous sommes avec le Seigneur. Tout ce qui entoure ta vie, des difficultés, des épreuves, mais aussi des moments de joie, des circonstances qui ont jalonné ta vie, que tu as essayé de comprendre et dont tu n'es jamais arrivé à la compréhension. Tout cela s'est présenté à toi comme des contingences, comme des événements impromptus, comme des événements imprévus. Oui, pour toi, comme j'ai eu à le prêcher ici, c'était imprévu pour toi, mais prévu par Dieu. Alors dis-lui merci. Entre dans ta destinée. Règne par Jésus-Christ. Et pour cela, il faut qu'il occupe la première place en toi. Pour cela, il faut qu'il devienne le Seigneur de ta vie, qu'il devienne l'hôte suprême et non pas un simple invité. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le message de ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à entrer dans notre destinée, à y demeurer, Seigneur, pour finalement régner par toi et par toi seul. Tu nous appelles non pas à subir la vie, tu nous appelles non pas à subir les événements, les circonstances qui entourent, environnent notre vie, mais tu nous appelles à les dominer. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous vivons par toi, où tu es le Seigneur de notre vie. Alors aide-nous à travailler notre proximité avec toi, notre intimité. Merci pour tout. Merci Seigneur. Bénis maintenant ce moment.